C'est nettement moins drôle ce qui pourrait suivre au Proche-Orient suite à la décision de Donald Trump de déplacer l'ambassade américaine depuis Tel Aviv jusqu'à Jérusalem. Et c'est la raison pour laquelle aussi j'ai souhaité vous faire entendre cet extrait d'archives. Vous faire entendre également la voix de nos deux invités. Édouard Tétrault, bonjour, vous êtes essayiste, bonjour. Conseiller de dirigeant d'entreprise. Vous avez notamment publié 20 000 milliards de dollars aux éditions Grasset. Et à côté de vous, un philosophe américain, Dick Howard. Vous êtes professeur émérite à la Stony Brook University à New York. Vous êtes membre, entre autres, du comité de rédaction de la revue Esprit. Cette décision de Donald Trump de déplacer l'ambassade américaine, elle était à la fois attendue. Pourquoi intervient-elle maintenant, selon vous, Dick Howard?
Il me semble qu'il y a eu des rapports établis entre M. Kouchner, donc le gendre de M. Trump, et Mohammed Ben Salman, le numéro 2, bientôt numéro 1 en Arabie Saoudite. Et ces rapports, dont on ne sait pas grand-chose, sauf que les deux hommes se sont entretenus à plusieurs reprises, jusqu'à 4 heures du matin, etc. Donc, comme Donald Trump est un adepte, justement, des rapports personnels, qui fait des deals, n'est-ce pas, et qui ne fait pas du tout de la diplomatie, ça ne m'étonne nullement de lui. En même temps, il y a un deuxième aspect à considérer, et c'est simplement qu'on n'a presque plus, pour ainsi dire, un département d'État. On n'a presque plus de politique étrangère. Monsieur Tillerson, qui semble-t-il, est en train de partir, mais néanmoins...
L'équivalent donc du ministre des Affaires étrangères, Rex Tillerson.
Oui, exactement, qui lui-même... De lui-même a proposé une coupure de 30% du budget de son ministère, et qui lui-même vient de l'industrie privée. C'était le chef d'une grande compagnie, Exxon, de grande compagnie pétrolière. Donc, on n'a pas de politique étrangère, et du coup, Monsieur Trump, quatrième raison, Monsieur Trump fait de la politique domestique, tout simplement. Et c'est pas uniquement pour les constituants d'origine juive, c'est peut-être et avant tout pour les chrétiens messianiques fondamentalistes qui sont la vraie base de sa politique.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Parce que on voit très bien dans quelle mesure cette décision peut déclencher un conflit important au Proche-Orient, puisque pour l'instant, cette capitale est une capitale qui est partagée si elle devenait, par le biais donc de cette ambassade américaine, reconnue comme étant la capitale de l'État hébreu. Il y aurait des conflits inévitables. Hamas, d'ailleurs, a promis les portes de l'enfer aux Américains suite à cette décision. Pourquoi les évangélistes, notamment, seraient-ils ravis de cette décision, Dick Howard?
Écoutez, dans ce pays catholique, il faut que j'explique un peu les protestantes. Il y a deux directions. On sait que le Christ va revenir. Ça, tout le monde est d'accord, quel que soit chez les chrétiens. mais il y a des post-millénaristes et les pré-millénaristes. À savoir, est-ce que il faut qu'il y ait l'apocalypse d'abord et ensuite le Christ va revenir, ou faudrait-il qu'on travaille ici-bas pour préparer la règne?
Je comptais sur vous pour me donner une explication aussi inquiétante que cela, parce que donc les millénaristes, ce sont des croyants qui pensent que la fin du monde est une très bonne chose puisque elle va permettre sa renaissance.
Oui, c'est une tendance, mais l'autre tendance qui est devenue dominante, c'est ça qui est en jeu. La tendance dominante, c'est post-millénariste, c'est-à-dire il faudrait qu'on travaille ici-bas pour préparer la règne du Christ. Et de ce point de vue-là, on se demande pourquoi, tout d'un coup, ces protestants fondamentalistes qui, pendant longtemps, évitaient la politique, maintenant, depuis Reagan, d'une certaine manière, pourquoi ils se mêlent? Et c'est parce qu'ils veulent préparer le règne du Christ.
Est-ce que vous êtes en train de dire, Dick Howard, qu'il y a sérieusement des gens aux États-Unis qui pensent que la fin du monde est une bonne chose?
J'ai pas dit fin du monde. J'ai dit l'arrivée du Christ. Et on le prépare en, justement, par exemple, en mettant fin à ce genre de conflit, en reconnaissant les réalités, etc. Et c'est dans cette optique-là, je crois, que ça marche.
Édouard Tétrault.
Oui, alors j'aurais quand même complété, parce que là on parle effectivement de quelques sectes qui n'ont de chrétiens que le nom. Et je vais réagir un petit peu comme catholique et puis aussi comme quelqu'un qui a travaillé avec la diplomatie vaticane pour préparer le voyage du pape François. François à New York il y a 2 ans. La position de l'Église catholique sur Jérusalem, elle est très claire. C'est le statu quo. C'est on ne touche à rien, mon Dieu, et les chrétiens sont les premiers à le demander. Les chrétiens à Jérusalem aujourd'hui sont victimes de 2 menaces. Bien sûr, les menaces palestiniennes ou intégristes, mais aussi de l'intégrisme qui existe en Israël. Vous avez des immeubles d'habitation qui ont été déplacés par des colons qui étaient habités par des chrétiens. Donc le message du pape François d'ailleurs était très fort hier, c'était statu quo, attention, et c'est la ville de toutes les religions et il n'est pas question que l'une des trois s'empare de la ville sainte. Elle est sainte pour tout le monde.
Dick Howard, depuis cette décision de Donald Trump, on essaye malgré tout de se rassurer. Alors, il y a, semble-t-il, donc une règle qui prévaut depuis 1995, c'est-à-dire que depuis 1995, le déplacement était prévu et repoussé tous les 6 mois. Est-ce qu'on pourrait imaginer que cette décision soit une décision purement verbale ?
Certainement, d'autant plus que pour établir une ambassade, ça ne se fait pas d'un jour au lendemain. Il faut trouver des terrains, il faut construire, etc. Et il y a de fortes chances, me semble-t-il, que d'ici 3 ans maintenant, Monsieur Trump ne sera plus président.
On verra. Mais...
On verra s'il termine son mandat déjà. Mais c'est une autre question. Autre question.
On va continuer à évoquer ces différentes perspectives, mais en attendant, s'il maintient donc ce souhait de déplacer cette ambassade, vous avez parlé donc de la portion d'Américains évangélistes qui pourraient être contents de cette chose-là. Est-ce qu'il y a aux États-Unis une communauté juive homogène qui pourrait elle aussi être heureuse de cette décision ?
Je pense que la communauté juive est assez divisée sur ces questions-là, d'autant plus que la majorité de la communauté juive est plutôt tendance qu'on appelle réformée, c'est-à-dire plutôt libérale. Mais ce qu'il y a, par contre, c'est un certain nombre d'hommes qui soutiennent la politique de droite radicale, dont un certain monsieur Adelson, qui tient des casinos un peu partout dans le monde. Et ces gens-là exercent une pression sur la politique. Et ça, c'est à cause, il y a beaucoup de raisons de ça, mais notamment quelques décisions de la Cour suprême qui permettent à l'argent de jouer un rôle politique.
C'est également une décision qui ne satisfait pas du tout tout le monde en Israël. Alors évidemment les Arabes israéliens, mais aussi parmi les Juifs, Thomas Cluzel l'a rappelé tout à l'heure dans sa revue de presse internationale, il y a beaucoup de voix qui sont extrêmement inquiètes de cette décision, Dick Howard.
Parce qu'il y a des gens qui n'ont pas une vision monomaniaque, j'allais dire, la diplomatie. Ce qui est intéressant, c'est que les Américains disent, tiens, ben, les Israéliens, ils déclarent que c'est leur capitale, donc c'est leur capitale, comme si c'était une décision qu'on pouvait prendre de façon indépendante. C'est la même chose en politique aux États-Unis, un peu partout. On ne reconnaît pas l'existence de l'autre. On ne reconnaît pas le fait que il ne s'agit pas simplement d'agir vis-à-vis de l'autre, mais il faut prendre en considération plusieurs points de vue. C'est un jeu d'échecs à 3 ou 4 niveaux au moins. Et ça, la pensée diplomatique, ça ne s'apprend pas d'un jour et ce n'est pas quelque chose de donné, d'inné à l'être humain.
Dick Howard, il y a également quelque chose que l'on comprend mal en France. Il y a donc d'un côté cette décision donc de Donald Trump de satisfaire la portion, je dirais, la plus sioniste ou en tout cas la plus extrémiste dans son soutien à Israël. Mais de l'autre côté, on a vu dans l'actualité récente aux États-Unis que Donald Trump était très ambigu par rapport aux suprématistes blancs. Il y a eu l'épisode de Charlottesville, par exemple. Comment peut-on articuler à la fois un soutien à Israël et un soutien à des groupuscules néo-nazis, alors soutien dont vous allez déterminer la portée ?
Là, vous touchez, quand vous évoquez Charlottesville, vous touchez à un épisode qui est, à mon sens, clé pour comprendre ce qui se passe chez Trump. C'est effectivement l'émergence d'une faction qu'on pourrait appeler le pouvoir blanc. Et ça réanime une longue tradition américaine qui a été cachée, si vous voulez, pour le dire en deux mots. Moi et beaucoup d'autres pensaient que entre Martin Luther King et Barack Obama, il y avait eu un progrès continu et que d'une certaine manière, j'étais à cette radio en 2008 à New York, surplombant Times Square quand Obama a été élu, et on disait, et tous, y compris les Français, disaient « Ouf, ça y est, l'Amérique a dépassé ses scories de son passé ». Or, Charlottesville a déclenché tout autre chose. L'élection de Trump a déclenché tout autre chose, à savoir qu'il y avait une part d'ombre dans cette histoire américaine qui, je ne vais pas revenir sur toute l'histoire, mais ça, c'est né avec la Constitution même. Pour faire cette constitution, il fallait négocier un compromis entre les États libres et les États esclavagistes. Et on allait compter des esclaves comme 3/5 d'un être humain. Alors, à partir de là, bon, ça continue. Un mot encore peut-être sur Charlottesville. Il s'agissait des statues à l'honneur de certains généraux des États sécessionnistes, notamment Robert E. Lee. Et ce qui est intéressant, c'est que ces statues étaient érigées à partir de 1876. Pourquoi 1876? La guerre civile termine en 1865. Après, il y a occupation des terres du Sud pour libérer les esclaves. Et puis, en 76, il y a une élection contestée aux États-Unis et on va faire un accord, on va donner la présidence aux républicains en échange de retirer les troupes d'occupation du Sud. Et à ce moment-là, cette même année, est né le Ku Klux Klan et son ériger ces statuts et créer l'idée de la cause noble qui a été la sécession des États du Sud.
Mais tout de même, excusez-moi d'insister, Dick Howard, lorsqu'on a découvert l'existence de cette manifestation néo-nazie à Charlottesville, on a été extrêmement surpris. J'ai prononcé le mot de néo-nazi parce qu'on a vu l'interview, par exemple, d'un meneur de cette manifestation qui évoquait donc ça. Haine, son racisme absolu à l'encontre des Noirs et des Juifs. Et reprochait d'ailleurs à Donald Trump sa compromission avec les Juifs, puisque donc son gendre est juif, et il expliquait qu'il défendait les intérêts sionistes. Comment articule-t-on, j'allais dire une idéologie, mais je ne sais pas s'il y a la cohérence d'une idéologie chez Donald Trump, mais en tout cas, une attitude pour le moins ambiguë vis-à-vis des mouvements néo-nazis et une attitude de soutien vis-à-vis de la frange la plus radicale du sionisme.
Ben, ça vient de la France. Ça vient de la France, justement, d'une certaine manière. C'est l'influence de deux penseurs français, Roland Camus et Alain de Benoist, avec leur idée, leur crainte de ce qu'ils appellent le grand remplacement. Mmh. Et lors de cette manifestation, quand les néo-nazis se présentaient, ils disaient « Vous n'allez pas nous remplacer ». Et puis, ils faisaient un jeu de mots. « Jew n'allez pas nous remplacer. » Mmh. Donc, il y avait de l'antisémitisme en même temps qu'il y avait cette idée, cette crainte qui est un spectre qui hante l'Occident, si l'on veut, ce grand remplacement, cette crainte d'islam, etc. etc. Donc, je crois que c'est là qui se joue pas mal de choses.
Édouard Tétrault.
Oui, d'abord, je bois les paroles sur les racines de historiques que vous venez d'écrire pour expliquer ce qu'est en train de faire Donald Trump. Il y a quand même un point, moi, qui me frappe, c'est j'étais à New York il y a 10 jours, je voyais mes amis des démocrates battus de l'équipe Clinton, et ils m'ont dit « Ne sous-estimez jamais Donald Trump, il est possible qu'il fasse ses deux mandats. Pourquoi ?» Parce qu'il a une capacité, d'abord il n'a pas de limite, et il a une capacité incroyable à créer de la diversion. Et je me demande dans quelle mesure cette opération aujourd'hui n'est pas une diversion extraordinairement réussie.
Pourquoi ?
Il a le procureur Mueller à ses basques, il n'est pas loin de trouver quelque chose...
Il faut rappeler pourquoi, Edouard Tétrault.
Oui, pardon, oui, le procureur Mueller, c'est pour l'affaire de l'ingérence russe. Il y a tout le premier cercle de Donald Trump qui est actuellement visé par une enquête, et les uns les autres commencent à négocier, plutôt que d'avoir la perpétuité, ils vont balancer, pardon, le président américain. Mais cette opération de diversion est peut-être en train de réussir sortir, je vois deux choses. Moi, j'ai deux petites antennes. Le New York Times aujourd'hui n'est pas outragé comme l'est la presse occidentale sur le mouvement. Et très factuel. Dit ben voilà, Jérusalem va être la capitale. Les Palestiniens sont pas très contents. Ça va pas tellement plus loin que ça. Et puis bien sûr à Washington, l'un des principaux lobbies en fait qui défend les intérêts d'Israël depuis longtemps, qui s'appelle l'AIPAC, est ravi. Et dans une certaine mesure, ce qui est en train de se passer, c'est une consolidation du pouvoir de Monsieur Trump, notamment au Congrès, une diversion dans les médias, avec à minima une neutralisation de quelques-uns des médias qui lui étaient le plus hostiles. Et ça, si vous voulez, cet homme-là est capable de provoquer une guerre pour divertir l'attention de... Pour moi, c'est ça le sujet.
Dick Howard, vous aviez une autre vision des choses. Vous pensez qu'il pourrait ne pas terminer son mandat. Donc j'imagine que vous songez à un impeachment possible. Expliquez-nous pourquoi, donnez-nous votre vision des choses.
Je crois que je suis d'accord avec l'idée de diversion. Effectivement, là, il joue un jeu de maître. Ce qu'il y a, c'est que au début du mandat, je pensais que les institutions américaines tiendraient, qu'il y aurait la séparation des pouvoirs, il y aurait, comme Montesquieu nous l'apprend, l'esprit républicain, l'esprit qui resterait. Et au fur et à mesure de cette diversion, effectivement, il met en question l'esprit des lois. Il met en question la croyance de la Constitution. Et l'impeachment, ce n'est pas quelque chose de juridique. C'est une question politique qui est en jeu. Quand on pense à Richard Nixon, qui était le dernier à subir cela, c'était l'opinion qui, peu à peu, tournait vers lui. Donc, je ne pense pas que Mueller va découvrir la chose, la petite bête, ou la grosse bête. Mais l'opinion tourne. Et d'une certaine manière, ces excès de Charlottesville, justement, contribue à cela.
Mais alors, en un mot, car le temps presse, Dick Howard, d'où pourrait venir l'impeachment ?
D'où pourrait venir l'impeachment ?
S'il ne vient pas du dossier russe, puisque c'est aujourd'hui l'hypothèse qui est retenue, quand elle est retenue.
Ça viendra de l'intérêt de chacun des sénateurs ou des congressmen qui ont un but avant tout, c'est d'être réélu.
On continue à en parler vers 8h20. Dick Howard, Edouard Tétrault.